chacun, oui, manifeste ta présence. Voilà, heureux de partager la parole de Dieu et conscient que c'est toujours une parole que nous connaissons, mais nous voulons que ce soit une parole aussi de force et de courage. Je voudrais lire avec vous de suite dans Genèse 38, verset 27. Genèse 38, verset 27. Genèse 38, verset 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en a eu un qui présenta la main. La sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi, en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira sa main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite ? Il lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérac. Voilà. Les dames qui ont été mamans, qui ont accouché, vous devez vous dire quelle histoire, hein ? Des jumeaux. Peut-être quelqu'un dans la salle a eu des jumeaux ou des jumelles ? Non, oui, ah ouais, il y en a, là, voilà. Hein? Donc certainement, ça se rapproche un petit peu de ce texte. Quelques précisions. Le premier, donc, qui sort sa main, dirons-nous, c'est Zérac, hein, et elle lui met un fil cramoisi, mais voilà, en définitive, c'est pas lui qui sort le premier. Hein? Il sort sa main, on attache le fil cramoisi, il naît en seconde position. Vous savez, le nom de Zérac, ça signifie éclat, lumière jaillissante, gloire. Et puis, celui qui est passé, dirons-nous, devant, qui a supplanté, c'est Pérette, qui lui est sorti le premier. Alors que déjà le second avait sorti sa main, bon, il y a eu toute une démarche, je plains la maman, et puis les personnes qui étaient là devaient se dire qu'est-ce qui se passe, hein, d'où le nom Pérette, brèche. Alors, souvenez-vous de ce récit du départ, hein, c'est pour nous le point de départ de ce qu'on va partager ce matin. Hein, donc, qui est né le premier, c'est Pérette, et qui avait sorti la main le premier, Zérac. Là vous dites, ça y est, on se perd déjà. Non, vous ne perdez pas. Pérette est né le premier, Brèche, et Zérac est né par la suite. Laissez-moi vous donner quelques analogies avec cela, et après on va rentrer un peu dans le sujet. Pensez à ce récit. Ce récit résume, et cette réalité, ce qui s'est passé là, hein, lorsque Tamar accouche, et résume ce que la Bible révèle. La Bible révèle qu'il y a eu le premier Adam et le dernier Adam. La Bible révèle, dans 1 Corinthiens 15, 44, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, ça c'est le chapitre sur la résurrection. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, c'est pourquoi il écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Hein, d'accord ? Si vous voulez, Adam a été créé et soumis au péché, une brèche a été ouverte dans toute l'humanité. Et Pérette, c'est l'image de l'homme naturel aussi. Celui qui a laissé le jardin d'Éden, par se soumettant à la tentation, a laissé le péché faire une brèche dans le cœur de l'être humain. Et c'est terrible. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et un peu plus loin, il dira, ainsi donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, donc il parle d'Adam. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, et là il parle de Jésus-Christ, le dernier Adam, hein, comme dont il fait mention. Ça c'est la première analogie. Pérette, l'image de l'homme naturel, Zérac, l'image de l'homme qui est sauvé par grâce, qui est rempli de la vie de Dieu. Autre image qu'on pourrait définir dans cet accouchement, vous voyez qu'un accouchement, il y a plus que des moments douloureux, il y a des choses qui peuvent nous parler. Il décrit, c'est une autre analogie, donc ça décrit cet accouchement, l'incarnation de Jésus, et ça symbolise sa double nature. Jésus est venu ici-bas sur terre comme un simple homme. Et plusieurs l'ont dit dans leur prière, dans leur louange, t'es venu comme un simple homme. Mais autant il est venu comme un simple homme, il a aussi été sur terre le Fils de Dieu. Et nous voyons bien que lorsqu'il était sur terre, non seulement il avait cette nature avec ses limites humaines qu'il a prises pour chacun d'entre nous, mais il y avait aussi toute la gloire de Dieu, la relation avec Dieu, la puissance de Dieu. Hein? Et je dirais, c'est pour cela qu'il y a eu ce fil écarlate qui est l'emblème de la gloire. Hein? Vous savez que Rahab avait mettre ce fil écarlate sur la muraille pour être épargné. Et vous savez que dans ces personnages, là, vous verrez, si vous regardez la généalogie de Jésus, vous y trouverez cela. La Bible dit, dans le prophète Ésaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Hein? Donc oui, il s'est incarné comme un simple homme, comme Peretz, mais il avait cette double nature où il était glorieux, il avait ce fil cramoisi, dirons-nous, cet emblème de la gloire, tel Zérak, cette lumière jaillissante. Je vais terminer par un autre aspect qui nous parlera un peu plus, et après on va aller un peu dans le sujet. Un peu, j'espère beaucoup. Les circonstances de cet accouchement illustrent bien ce qui cause des brèches à la vie du chrétien. Et là, ça nous concerne à tous. En tant que chrétien, personnellement, pour ceux qui sont engagés avec Dieu, mais aussi en tant qu'Église. Nous sommes nés avec un cœur dans lequel le péché est entré, et dès sa naissance, cette brèche se vérifie dans son cœur. Il n'y a pas eu besoin qu'on nous dise « t'es pécheur », on le sait par notre conscience qui nous dit, et on le comprend. Mais qui, grâce à Jésus-Christ, a reçu cette nouvelle nature d'enfant de Dieu. Donc, au début, nous sommes nés Peretz dans la chair, mais nous sommes nés de nouveau Zérak dans la puissance de Dieu. Ça va, oui? Vous me suivez, hein? Sinon je recommence. Hein? Il peut maintenant vivre comme un enfant de Dieu. Il a été adopté, il est réconcilié avec le Seigneur. Il a reçu la vie d'en haut. Au plus profond de lui, il s'est passé vraiment une libération. Mais, j'aimerais dire, il sera constamment assujetti, le chrétien, l'enfant de Dieu, vous, moi, on est constamment assujetti à choisir sous quel registre je veux vivre. Est-ce que je veux vivre sous le registre Peretz, donc la chair, ou est-ce que je veux vivre sous la vie de l'esprit, tel Zérak, hein? Et on pourrait faire beaucoup de paroles ainsi, mais je voudrais nous encourager ce matin, je crois que Dieu veut nous encourager à réfléchir. Soit je vis dans la lumière jaillissante du trône de Dieu, soit je vis dans la présence de Dieu, je cherche sa présence. Et le fil cramoisi, je dirais, représentant les désirs de l'esprit, se développe en nous. La présence de Dieu se manifeste dans nos cœurs par son esprit. Et je dirais, nous sommes là au bénéfice de cet amour. Soit, vous remarquerez qu'il y a toujours ce combat de la chair dans nos vies. La chair cherche à supplanter cette vie de l'esprit. Elle cherche toujours à reprendre le dessus. Le vieil homme cherche toujours à tel Peretz, à faire une brèche dans notre foi, à nous reprendre et nous faire reculer. Nous voulons avancer et parfois nous disons, mais Seigneur, pourquoi ? Quelqu'un, il y a eu un don spirituel tout à l'heure, je l'ai marqué là, j'avais marqué une phrase, ça a été comme redit, je le dirai tout à l'heure. Quel monde de vie dans lequel je veux évoluer ? Le monde de brèche ou le monde de lumière ? Comment je vis ma vie chrétienne ? Et je ne suis pas en accusation, parce que sinon je m'accuse le premier. Mais nous sommes en réflexion et en disant, Seigneur, oui, le monde, comment dire, la chair voudrait reprendre le dessus dans ma foi. C'est un combat, c'est pour ça qu'il dit combat le bon combat de la foi. Mais Seigneur, je veux plutôt chercher le désir de l'esprit. L'apôtre Paul dira, affectionnez-vous aux choses en haut. Et il va expliquer que les choses en bas, peut-être on le dira tout à l'heure, on verra. La difficulté, bien sûr, pour chacun d'entre nous, c'est de se maintenir dans le temps, en heure après heure, en mode lumière, vous le comprenez? Je ne veux pas aborder plus ce sujet, mais je nous amène à réfléchir. Parce que des fois, on attend que Dieu fasse tout, mais il ne fera pas ce que nous devons faire. Il nous attend comme un père. Et il nous a créé responsables. Il nous dit, voilà, j'ai tout pour toi, je te donne la vie en abondance, mais aussi prends tes responsabilités. Décide-toi. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de choix quand même. Je ne suis pas, parce que je suis né de nouveau, automatiquement, toujours en pleine connexion avec le Seigneur. Parce que lui, il est toujours prêt, mais moi, je ne suis pas toujours. Et on le sait, hein? Est-ce que quelqu'un ne le savait pas? Je ne vous apprends rien, vous le savez. Mais je voudrais m'arrêter un peu plus maintenant sur les brèches et sur le fait de réparer ces brèches. On ne va pas décrire les brèches qui peuvent exister dans la vie. La chair est là. Vous savez, dans le livre des rois, alors qu'il y a eu plusieurs, on pourrait penser aux murailles de Jérusalem, par exemple, dans le livre des rois, il nous dit « Joas, roi d'Israël, il prit ceci, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Akazia,
il vint à Jérusalem et fit une brèche de 400 coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or, l'argent, tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et les retourna à Samarie. Il y a plusieurs situations de l'Ancien Testament qui démontrent des situations dramatiques, mais pas pour dire, voyez, ils sont stupides, en parlant du peuple ou du peuple d'Israël, mais pour dire, voilà ce qui se passe. Et voilà ce que Dieu peut faire aussi. Plusieurs situations dramatiques sont liées à des prises de position charnelles de certains rois, de certains responsables de pays à ce moment-là. Pourtant, Dieu et l'Éternel étaient leur Dieu. Preuve que notre responsabilité personnelle engendre des choses, vous le comprenez. Hein? Et en refusant ces rois délibérément d'écouter les envoyés de Dieu, les prophètes, eh bien, voilà qu'il y a malheureusement des catastrophes, des situations compliquées. Et là, Jérusalem est prise à partie, encore une fois, comme tant de fois, et comme ça sera à la bataille d'Armageddon, etc. Tant de fois Jérusalem est prise à partie. D'ailleurs, la prophète dira, c'est le nombril de la terre dans la version d'Arby. Comme pour dire, moi je dis souvent, Albi, c'est le nombril de la France. Ça ne plaît pas. Hein. Surtout, il y a des Normands, je sais, ce matin, qui nous visitent. Que Dieu vous bénisse. Mais Albi, c'est presque le nombril de la France. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein. C'est une bêtise. Jérusalem est prise à partie 200 mètres à peu près de brèche. Alors vous comprenez que la ville, elle peut avoir 80% des murailles qui sont intactes, mais à cause de cette brèche, il y a là maintenant le pillage, il y a là la vulnérabilité. Et une brèche dans notre cœur, une brèche dans nos vies, une brèche qu'on laisse béante, va permettre, je dirais, à tout ennemi à avoir facilité l'accès dans nos vies. Alors des fois on parle de Satan, mais vous savez, la chair a vite fait de s'introduire, de reprendre le dessus. Et notre entêtement et notre orgueil sont tant de péchés qui favorisent le début d'une brèche. Et c'est pour ça que la Bible nous invite toujours à venir prendre la scène, non pas pour dire il faut le faire parce que c'est une tradition, mais pour dire regarde où tu en es, regarde si ta vie, dans ta vie il y a des brèches. Vérifie, et puis s'il y a des brèches, pourquoi ne veux-tu pas les reconstruire? Le premier couple nous laisse l'exemple suprême qui a été fatal pour toute l'humanité. Hein, en laissant s'introduire le serpent dans le jardin, en écoutant ses mensonges, les brèches se sont faites entre Dieu et l'être humain. Il y a une brèche, la relation n'a plus été la même. Entre l'homme et la femme, et puis même dans l'homme au plus profond de son être, lui-même a commencé à éprouver des peurs, à se cacher, la honte, et tout un tas de choses, à cause de cette brèche ouverte. Et depuis génération en génération, nous y dit cela. Mais au niveau d'une église locale, il peut en être de même. Des brèches peuvent être occasionnées. Je cite quelques textes, par exemple Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Et je ne dis pas ça pour régler le compte de quoi que ce soit. Moi, je veux pas être hypocrite là. Mais une réalité, c'est que l'ennemi fera tout pour diviser les églises. Mais nous ne voulons pas. Et nous voulons être vigilants. Dans l'épître de Pierre chapitre 2, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, en reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et aujourd'hui, on peut facilement s'abreuver de discours de faux prophètes. Nous on est des bons, hein. Je veux juste dire méfiance, soyons prudents. Ce matin, plusieurs peuvent reconnaître qu'il y a une ou plusieurs brèches dans votre cœur, dans nos cœurs. Une brèche qu'on a laissée bien béante. Un jardin secret qu'on ne veut pas soumettre à Dieu. Une rancœur, une non-pardon qu'on ne veut pas gérer. Il y a toujours de ça, je donne cette expérience. J'étais là seul. Et alors que je méditais, je priais, je pensais à une situation du passé où quelqu'un avec qui que je connaissais assez bien m'avait écrit il y a quelques années en arrière « Laisse-moi tranquille, je n'ai plus de contact pendant quelque temps. » Pour des raisons qui étaient propres, il n'y avait pas de conflit entre nous, mais il y avait des situations compliquées. Et alors que je priais, je pensais à eux, je priais pour eux, cette personne, ce couple, cette famille.
Je disais là, oh, Seigneur, ben béni, etc. Je parlais au Seigneur, tout simplement, ça me regarde, ça. Je ne veux pas vous dire ce que j'ai dit. Mais par contre, c'est comme si le Seigneur me disait, bon, t'arrêtes et tu agis maintenant. C'est comme s'il me disait ça, mais il ne me l'a pas dit. Je ne dis pas qu'il me l'a dit. Mais plus profond de mon être, c'est de dire, mais bon, tu pries pour eux, c'est bien, mais agis. Alors, mince, j'ai dû mettre mon orgueil sous mes pieds et dire, moi maintenant, fais quelque chose. Donc j'ai écrit un mail et je me suis expliqué. Je me suis dit, je ne sais pas si j'aurai une réponse. Et hier soir, je disais à ma femme, regarde, j'ai reçu la réponse. Et il y avait toute une ouverture de cœur qui est là. Dans nos vies, il y a des brèches qu'on peut laisser ouvertes, béantes. Et là, ce n'était pas que de mon ressort. Hein, parce que la Bible dit, soyez en paix autant que ça dépend de vous. Mais dans la situation, je voulais régler cette affaire. Je voulais, parce que surtout, pas régler, je n'étais pas en conflit du tout. Mais je voulais vraiment qu'il y ait un bien, une bénédiction derrière. Et dans nos vies, il est nécessaire d'être vrai avec nos cœurs, être vrai. Alors, j'ai marqué ici, comment vais-je faire? Vais-je m'en sortir? Est-ce réparable? Il y a parfois des personnes qui disent, je ne peux plus, cette brèche est trop béante, je ne pourrai rien faire. Je ne vais pas rentrer dans des détails, vous donner des exemples. Mais combien de fois, en tant que pasteur, on entend, je n'y arriverai pas, c'est plus possible, c'est inextricable. Et les personnes sont tellement convaincues qu'elles pensent que, elles sont à part, elles sont différentes, c'est plus possible, Dieu ne peut plus les aider. Alors, ils ont essayé par leur force, ça s'est pris de cours, c'est tombé, etc. Le Seigneur nous a parlé de diverses manières ce matin, on va réfléchir. Alors, réparer les brèches, j'aimerais vous rappeler le récit, j'en ai déjà parlé souvent, il y a quelques années en arrière, de Néhémie. La réparation des murailles de Néhémie. Pas de Néhémie, de Jérusalem, du temps de Néhémie et par le biais de Néhémie. Première chose, allez, on va le lire ensemble. Néhémie, chapitre 1. Parce qu'il faut vérifier que je ne vous dise pas des bêtises. Hein. Verset 2. Néhémie chapitre 1, verset 2. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem a des brèches. Ses portes sont brûlées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais pendant plusieurs jours, et je pris le deuil, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux, et etc. Et on va s'arrêter là, dans un premier temps. Hein. Ici, on voit, ce n'est pas sans émotion que Néhémie, alors qu'il est, il n'est pas à Jérusalem, il est à Suse, je ne me trompe pas, à Suse, oui, la capitale, il est à Suse, là, alors que Néhémie est à Suse, il voit des Juifs, il leur pose la question. Et ils disent, voilà, c'est le comble du déshonneur, le pays, voilà, et les murailles sont détruites. De Jérusalem, c'est une ville accessible. Alors, il est bouleversé. Il y a des émotions, là. Il y a une réelle prise de conscience. Et je dirais, mais il y a une réaction, non seulement sentimentale, mais on voit une réaction spirituelle. Et la première chose à faire, quand on aborde le sujet des brèches, il faut reconnaître. Il faut accepter de reconnaître que... Là, lui, il apprend, il ne savait pas, il apprend. Donc ça le bouleverse, ça le touche. Et il ne se laisse pas en disant, oh, mais c'est leur problème finalement, si j'avais été là-bas, mais je suis en captivité, mais si j'avais été à Jérusalem, le problème aurait été réglé. Non, il ne cherche pas un juge, il ne juge pas, il ne l'accuse pas, mais il est bouleversé par ce qui se passe. Et je dirais que tant qu'on ne veut pas reconnaître qu'on a des brèches dans nos vies, tant qu'on n'est pas honnête avec soi-même, Dieu nous parle quand même, et nous aime, et va tout faire pour nous démontrer, et nous mettre l'accent sur le doigt là en disant, regarde cette brèche qu'il y a dans ta vie, ou ces brèches qui sont dans ta vie. Là-bas, tout à l'heure, dans le livre des rois, on a vu, il y avait 200 mètres de brèche, c'était pas rien, c'était pas une fissure. Mais c'était une brèche, c'était une avenue, même une autoroute qui passait là. Hein. Nous laisser interpeller, c'est la première chose qui est nécessaire dans nos vies. Il faut être vrai. On peut faire trouver des excuses dans la vie, on peut parler de plein de choses, on peut accuser facilement les autres, on peut s'auto-détruire.
Mais le Seigneur ne demande pas de se renier, ne dise pas « Ah, mais je ne veux plus être juif parce que ceci et cela ». Il ne demande pas ça. Il demande une prise de conscience. Il demande de nous laisser interpeller. Deuxième chose, on le voit au chapitre 2, verset 13, regardez. Nous sommes toujours, vous l'avez compris, hein, dans la notion de réparer les brèches. Donc je prends conscience et après j'apprends, donc je suis informé. 2, verset 13, « Je sortis de nuit par la porte de la vallée, dans la direction de la source du dragon et vers la porte du fumier, en inspectant les murailles de Jérusalem qui avaient des brèches et ses portes dévorées par le feu. » Il continue, « Je continue, pardon, je passe près de la porte de la source et près de l'étang du roi, et il n'y avait pas de place où la bête qui était sous moi puisse passer. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. » C'est rare des fois que dans la Bible, il mentionnait toujours le trajet exact de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, où ils vont, qu'est-ce qu'il... Il y a des perspectives. Mais là, c'est très précis. On voit que Néhémie va se lever et va regarder, va inspecter, va chercher. Il se met au il évalue les dégâts. Il va vraiment... vous savez, des fois... Comment dire ? Des fois, on avait le fait de dire « Seigneur, pardonne-moi » et on continue. Mais peut-être il serait bien que dans la repentance de dire « Mais Seigneur, donne-moi de prendre conscience pleinement de tout l'impact qu'il y a là derrière. » Et des fois, on peut penser qu'en disant « Pardon Seigneur, pardonne-moi, je sais que tu me pardonnes et je continue. » Est-ce que j'ai vraiment réalisé tout ce que ça a impliqué ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence ? Ici, il prend le temps, lui tout seul, parce qu'après il va en parler, il va prendre d'autres personnes, il va prendre le temps d'évaluer vraiment les dégâts. Il faut évaluer les dégâts pour vraiment que le travail à accomplir pour réparer cela. Il faut estimer les choses. Et nous, dans nos vies, le Peretz, cette brèche qui est faite par cause de la nature charnelle, a fait des dégâts. Et il est nécessaire d'en prendre conscience, mais on ne peut pas mettre un mouchoir dessus, excusez le terme. Il faut enlever ce mouchoir et dire ça, c'est comme ça, je suis comme ça. Parce qu'on est mort, il faut être mort soi-même. Ce qui est la chair produit, ce ne sera jamais bon. Par contre, ce que Dieu veut faire dans nos vies, ce sera merveilleux, extraordinaire. Alors, je n'accuse personne ici. Je ne dis pas, voilà, vous avez tous des brèches. Chacun doit s'évaluer et s'évaluer. Chercher devant Dieu et se placer devant Dieu. Mais il est nécessaire de ne pas non plus mettre vite fait un mouchoir dessus. Il faut reconnaître. Ensuite, au verset 17, on voit qu'ils vont, je leur disais, vous voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite, ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Et puis il leur explique comment la main de Dieu était sur lui. Hein. Ici, ils se mettent au travail. Vous voyez, il n'est pas seulement à dire « Oh, c'est triste, comment la situation elle est là. Oui, c'est des brèches à ma vie, c'est terrible. » Il y a une prise de décision. Plusieurs mois, il a prié. Hein, parce que quand vous regardez dans le texte, il a prié plusieurs mois. Hein. Il a jeûné. Il n'a pas juste prié « Lance-Pierre, bonjour Seigneur, allez, une petite prière, je m'en vais au travail. » Non, il travaillait, certes, mais il y avait une recherche de Dieu. Et nous, dans nos vies, nous voulons, Seigneur, t'honorer, et t'honorer, c'est être vrai avec toi, mais avec nous-mêmes. Être vrai dans nos vies, dans nos limites, dans ce que nous sommes, mais être aussi conscient de ta grandeur. Oui, j'évalue les dégâts et les situations, les brèches qui peuvent être faites, et s'il faut réparer des choses, je les réparerai, mais il faut que je me décide et que je me lève. Ils se sont mis au travail. Levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution, parce qu'il faut se fortifier. Ils ne sont pas travaillés qu'un jour. Ils n'ont pas travaillé deux jours et puis après, ah, il y a l'opposition, ah, c'est dur la vie chrétienne, et puis ils sont partis. Ils ont continué jusqu'au bout. Et ce matin, si nous sommes conscients d'avoir une brèche dans nos vies, mon frère, ma sœur, reconnais, mais aussi décide-toi à te relever dans le Seigneur. Décide-toi à ne pas dire je vais essayer, mais marche maintenant dans ce chemin que Dieu veut. Si Néhémie n'avait pas été assuré de ce que Dieu avait décidé pour lui, il n'aurait jamais pris cette décision, il n'aurait jamais intercédé auprès du roi pour partir là-bas. Mais imaginez, un roi païen qui le laisse partir pour construire. Quand même, il y a des fois des choses surprenantes. Mais quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même le cœur de ses ennemis. Hein. Et quand Dieu nous approuve dans notre désir de lui plaire, eh bien, il va permettre des circonstances pour que je puisse aller jusqu'au bout des choses. Parce que Dieu est fidèle. Et Dieu se plaît à bénir l'homme et la femme qui disent « J'y arriverai pas par moi-même, je ne sais pas comment je vais faire, mais je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Et alors je vais m'engager sur ce chemin-là. Et je me mets au travail. » Parce que oui, il y a eu de l'opposition. Lisez Néhémie, il y a de l'opposition intérieure à l'extérieur. Et ça n'a pas arrêté. Comme d'ailleurs Esdras, ça n'a pas arrêté. Et au chapitre 6, regardez un exemple, verset 1er. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Vous voyez, il n'y avait pas de brèche, mais il manquait les portes. Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue à Kephirim dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse, j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre, pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterai pour descendre vers vous? Ils envoyèrent 4 fois le même message et je leur rendis la même réponse. Sambala m'envoya ce même message 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte et puis il y a tout un tas de choses qui est écrit, des calomnies, tout un tas de choses qui sont mentionnées. Ils font face à l'opposition et à l'adversité. Se décider à réparer les brèches qu'il y a dans son cœur, bien sûr que ça ne réjouit pas, et notre chair, et l'ennemi de notre âme. Et il fera tout pour essayer d'interrompre, mais ils ont été fidèles, ils ont fait les choses jusqu'au bout. Quand Dieu nous invite à prendre une décision, vous remarquerez que quand il a invité les apôtres à aller annoncer l'évangile, il leur a tout donné, entre guillemets tout, il leur a permis que l'Esprit soit avec eux, il leur a donné toutes les possibilités, tous les moyens pour réussir dans cette entreprise. Si Dieu nous invite à réparer dans nos cœurs les failles ou les choses qui pourraient encore être, piller votre cœur, piller notre cœur, sachez que Dieu va vous donner, si nous décidons vraiment, Dieu nous donne la capacité, par sa grâce, d'être vainqueur et de pouvoir aller jusqu'au bout. La muraille est refermée là, mais les portes pas encore. Et l'ennemi essaie jusqu'au bout de faire capoter l'affaire. Et nous savons que le combat de la foi, c'est jamais acquis à tout jamais. Ce serait bien, excusez-moi le terme, si on arrivait à un certain niveau, à un moment donné, on n'a plus besoin de combattre. Bien, je ne sais pas si ça serait bien. C'est pas possible, c'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que jusqu'au bout de notre course, ici-bas, nous sommes invités à combattre. Pas des gens, pas militer dans les rues, mais combattre spirituellement. Contre toutes ces choses qui voudraient miner notre cœur, tes pensées, te décourager au plus profond de ton cœur, mais dire ce ne sera pas possible pour toi. Ceci, non. Mais non, mais moi, dans telle condition, tu n'y arriveras pas à ça. Arrête de penser comme ça. Ferme cette muraille. Résiste, mets ce bouclier de la foi et dis non, ça c'est pas de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que celui qui croit, il obtient la force pour aller de l'avant. Il obtient la victoire. Il ne se laisse pas abuser. Je crois que trop, parfois, de pensées négatives sont dans nos cœurs. Et nous écoutons ces mensonges. Et alors on se laisse marcher dessus si on ne fait pas attention. Et on est dans le découragement. Mais Dieu dit non. Dieu dit, écoute, tu n'y arriveras jamais toute seule. Tu n'y arriveras jamais toute seule. Ne te laisse pas battre. Mais regarde ce qu'il te dit et regarde de l'avant. On va lire, et je conclue par ce verset, parce que je voudrais faire un appel tout à l'heure. Dans l'Épître aux Colossiens, je vous avais fait allusion tout à l'heure, au chapitre 3. Verset 1er. Donc peut-être vous avez une version différente, mais la pensée est la même. 3, verset 1er. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, donc si vous êtes né de nouveau, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez déjà, cherchez les choses d'en haut, le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est plus Jésus ici-bas, simple homme, c'est Jésus glorifié. Hein. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est dur ça, hein, parce qu'on vit dans ce monde. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous êtes mort? Non, on n'est pas mort. Oui, on est mort au péché. Mort au vieil homme. Le vieil homme est mort. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre. Ah, là, on voit bien qu'il y a encore le combat. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sont tirées de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous qui avez dépouillé la vieille nature avec ses pratiques et revêtu la nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créée. Amen. L'apôtre Paul, excusez-moi, il est vrai. Il dit bien, normalement, vous êtes né de nouveau, vous ne voudriez pas faire ces choses. Mais il dit, faites donc mourir votre nature terrestre. C'est-à-dire, continuez à faire mourir votre nature terrestre. Ne pensez pas que ça y est, c'est fini. Si on se relâche dans le combat de la foi, la nature terrestre reprend le dessus. C'est pas vrai ? Hein ? Alors vous pouvez dire à votre femme, non, je ne vais rien dire. Hein ? Et vous, mesdames, vous pouvez dire à votre mari. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Et on voit bien que c'est une prise de décision personnelle. Bien sûr que le Seigneur, on est caché dans le Christ, et c'est lui qui doit nous vouloir le faire. Je suis d'accord, tout à fait. On l'annonce, on le prêche. Mais il y a notre responsabilité. Et jamais Dieu ne gomme notre responsabilité. Jamais Dieu dit, pousse-toi, je le fais à ta place. Jamais Dieu ne nous rend assister. Dieu fait de nous des hommes et des femmes matures. Dieu fait de nous des hommes et des femmes qui disent oui, et le oui c'est oui, c'est pas oui demain non et peut-être gris de, après demain, c'est oui, point, oui jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Et si c'est non, ça va être non. Et nous voulons nous rappeler que la maturité chrétienne, c'est justement être autonome spirituellement, mais dépendant avec Dieu, c'est paradoxal, dépendant pleinement de Dieu, mais conscient qu'il y a sa part de responsabilité. La limite est bon endroit. Voilà. Pour moi, la maturité, c'est je dois savoir quelle est ma responsabilité vraiment. Bien sûr que je compte sur Dieu et tout dépend de Dieu, mais quand même, il veut me rendre intelligent selon sa parole. Alors, mon frère, ma sœur, ces brèches, peut-être, il y en a dans ton cœur. Ne t'accuse pas, mais regarde l'état de ton cœur. Et à ce moment-là, et maintenant, et tout à l'heure, et demain, et après-demain, et dans la continuité, Seigneur, cette brèche, je veux qu'elle se referme. Parce que si tu laisses cette brèche ouverte, excusez-moi, ta vie sera comme quand tu es dans le peuple était dans le pays, le désert du Sinaï. Hein, il y avait des bénédictions, mais il y avait en même temps des murmures, il y avait tout un tas de choses. C'était une espèce de cohabitation terrible, mais Dieu ne veut pas ça. Dieu veut la vie en abondance. Dieu veut te bénir. Dieu veut agir dans ton cœur et dans ton âme. Je vous invite à peut-être étudier Colossiens chapitre 3. Moi, personnellement, je le relis souvent. Je me dis, mon gars, t'as du boulot encore, t'as plein de choses à changer, mais Seigneur, je veux être conscient de qui je suis. On va prier ensemble. Tout à l'heure, on va prendre la scène, et on aura un temps d'annonce à la fin. Mais je vous invite à courber vos fronts. Je sais que plusieurs m'ont demandé aussi, nous ont demandé qu'on puisse prier pour leur état de santé, ou leur situation, ou des personnes qu'ils connaissent. Bien évidemment, on le fera, mais on va la faire ce matin d'une manière différente peut-être. On va pas citer les gens parce qu'on va oublier quelqu'un. Il y a des amis aussi qui sont sur internet, des frères et sœurs hein, qui souffrent. Et on a un groupe, un moyen pour parler, donner des informations de certains frères et sœurs qui ont besoin de la grâce de Dieu. On pense à eux et on croit que Dieu peut faire grâce. Mais ce matin, j'aimerais inviter, alors qu'on est recueillis, à dire, je sais, le Seigneur m'a montré que plusieurs sont dans le combat par rapport à ces brèches qui sont ouvertes. Je ne sais pas qui, ne vous inquiétez pas, mais je crois que ces brèches sont là et tu as entendu la parole de Dieu. Et tu veux répondre à, je dirais, d'une manière spirituelle, d'une manière honnête, vraie, devant Dieu. Alors qu'on est recueillis, s'il vous plaît. Voilà, tout à l'heure, que je dirais, ces personnes qui vraiment veulent répondre au Seigneur pourront se lever si elles le veulent. Les autres personnes qui peuvent se lever, ce sont celles justement qui ont dit, voilà, priez pour telle situation s'il vous plaît, priez pour moi aussi, je suis dans le corps, j'ai des problématiques, il y a deux personnes ici qui m'ont dit ça ce matin, et j'ai dit, au moment de l'appel, vous vous levez aussi, parce que le Seigneur connaît votre cœur, et il peut tout dans le ciel et sur la terre. Donc voilà, se lèvent ceux qui ont besoin, ces deux catégories de personnes s'il vous plaît, donc pour ceux qui sont malades, et puis aussi pour ceux qui disent, moi cette brèche qui est là, ou ces brèches qui sont là, je ne pensais pas que c'était, on peut reconstruire tout ça, mais béni soit le Seigneur, ça peut être restauré par sa grâce. On va prier de tout notre cœur, certains se lèvent. Oh, Seigneur, ta parole est oui et amen. Elle n'est pas un coup oui, un coup non, des choses peut-être, elle est certaine. Et ce que tu annonces est vrai. Est parfait, est juste, est plein de lumière. Seigneur, tu vois, en premier lieu, ceux qui se lèvent dans leur santé, tu vois, les situations, même les traitements qui peuvent être là pris, des choses qui sont pas décelées parfois, il y a des problématiques qui sont là et on ne sait pas trop. Seigneur, nos vies sont dans ta main. Tu bénis ces bien-aimés. Tu as toute autorité dans le ciel et sur la terre, et nous savons que par tes meurtrissures aussi nous sommes guéris. Et plusieurs de mes frères et sœurs souffrent dans leur corps. Tu sais toutes choses, rien ne t'échappe. Mais nous savons aussi que tu peux tout. Aussi, nous te les remettons et nous prions que tu les vivifies. Tu vois, ceux qui sont au loin pour qui il a été demandé la prière. Nous voulons aussi te prier, Seigneur, de les bénir abondamment. Seigneur, la première des choses, c'est que leur vie soit attachée à toi. C'est là notre prière, qu'ils te connaissent. Et s'ils ne te connaissent pas, que la révélation soit de ton amour, soit leur partage. Mais Seigneur, aussi, nous savons que tu t'occupes pas qu'un peu de nos vies, mais dans nos vies de toutes choses. Et nous voulons te prier pour tous ceux qui souffrent, ceux qui se sont levés, ceux qui ne se lèvent pas, mais qui souffrent aussi. Tu fais grâce, Seigneur, tu es l'Éternel, tu es Tout-Puissant. Je te prie également, et nous te prions ensemble, afin d'aider ceux qui, Seigneur, traversent des temps où les brèches sont ouvertes, sont béantes, sont douloureuses. L'ennemi a tellement accusé, tellement envoyé de flèches, de choses terribles. Mais tu es le vainqueur de Golgotha. Et quand tu nous invites à faire quelque chose, tu nous donnes la force, Seigneur. Tu donnes la capacité, non pas humaine, mais cette volonté spirituelle d'aller jusqu'au bout, parce que c'est ta force qui nous soutient, c'est ta droite qui soutient ton enfant dans la marche. Tu es celui qui conduit tes brebis, et quand tu les invites à prendre des décisions, tu leur donnes tout ce qu'il faut pour que cette décision soit réalisée pleinement. Seigneur, accorde à chacun et à chacune, Seigneur, de pouvoir faire face, s'engager et être comme Néhémie et tous ceux qui l'accompagnaient, être heureux de voir que cette brèche est maintenant refermée. Seigneur, fais grâce, pardonne les inconséquences de nos vies, les manières de réagir parfois à l'opposé de ce que tu souhaiterais. Fais-nous grâce, Seigneur, fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Pouvez-vous vous asseoir? On va prendre maintenant le pain et le vin. C'est pour ça que je voulais comprendre.